Bienvenue dans Obercaille, le podcast pour vous faire découvrir des solutions concrètes et éthiques afin d'améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et dans chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme vous, je me pose pas mal de questions pour rénover ou construire mon futur chez moi. Je vous propose donc de partir en quête des meilleures solutions adaptées à chacun d'entre nous. Et ça commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Étienne Gay. Bonjour Étienne.
Bonjour Caroline.
Donc Étienne, tu es un entrepreneur qui a à cœur de promouvoir la brique en terre crue comme matériau de construction écologique et durable. En effet, tu as fondé Brique Technique Concept, une entreprise spécialisée dans la production de briques en terre crue pour la construction. Tu es convaincu que c'est le matériau idéal pour lutter contre le changement climatique étant donné qu'il est renouvelable, recyclable et ne nécessite que peu d'énergie pour sa production. Pardon. La BTC, dans le jargon, possède des propriétés thermiques et acoustiques supérieures à celles des matériaux traditionnels, pour information. Et du coup, en tant que passionné de la construction en terre crue, tu es également impliqué dans les projets de recherche et de développement sur ces techniques de construction avec ce matériau. Bref, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'amélioration de son bercail et de son confort grâce à des matériaux sains et bons pour la planète et avec un focus sur la brique en terre crue. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici, Étienne ?
C'est parfait.
J'ai tout dit ?
Tout à fait.
Bon, parfait. Eh bien, écoute, je te propose de commencer notre épisode par deux affirmations, une vraie, une fausse, et à moi de trouver la bonne.
Très bien. Eh bien, écoute, déjà, la première chose, c'est que la terre crue, c'est un matériau de construction récent que l'on vient de découvrir depuis peu. Et c'est également un matériau d'avenir et certainement pour la construction mondiale et durable.
Ok. Bon, m'étant un petit peu renseigné pour cette introduction, du coup, je dirais que c'est plutôt un matériau de construction qui... Enfin, du coup, la deuxième qui est vraie, qui peut être durable et mondiale, et que ce n'est pas un matériau récent, du coup.
Tout à fait, c'est vrai, effectivement. C'est un matériau qui est multimillénaire. Dès que l'humain a eu besoin de construire, il s'est naturellement approprié ce qu'il avait sous la main, dont la terre. Et après, la vérité, c'est que c'est un matériau qui peut largement contribuer au développement durable et mondial de la construction, et peut-être même l'alternative la plus viable pour que les espèces humaines puissent perdurer sur la planète.
Et bah, comme ça c'est dit. je voudrais commencer cet épisode. Je pense que c'est important de le rappeler. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est l'éco-construction et pourquoi c'est important aussi pour notre environnement?
Alors, l'éco-construction, c'est la construction écologique. Donc, ça, c'est partir, on va dire, de matériaux qu'on a naturellement présents sous la main avec le moins de transformations possible. Et c'est très important pour deux critères majoritaires. Le premier, la planète. C'est que tout acte a un impact carbone. Plus il est réduit, mieux c'est. Et il doit être théoriquement inférieur à ce que la capacité de la planète a à régénérer. L'autre impact, c'est celui de notre santé directe. C'est que construire de manière responsable, ça permet de réduire tout ce qui est perturbateur au niveau santé.
D'accord. Bah justement, comment on peut choisir ces matériaux sains pour la construction, la rénovation de notre maison, au niveau de la santé? Comment ça se choisit, en fait?
Alors, il y a deux manières, on va dire. Il y a une manière intuitive, c'est qui semble assez logique, c'est que tout ce qu'on peut attraper dans la nature à portée de main est forcément compatible avec la vie sur Terre. Donc ça, on va dire de manière assez pragmatique, n'importe qui peut se dire « tiens, j'attrape du bois, c'est sain, j'attrape de la pierre, c'est naturel, c'est sain, j'attrape de la terre crue, c'est la même chose ». De manière, on va dire, plus intellectuelle, aujourd'hui, c'est regarder le bilan carbone de ces matériaux, regarder comment ils sont produits, et c'est vrai que depuis peu, avec la réglementation environnementale 2020 qui vient de se mettre en place, ça permet maintenant de regarder quel est le bilan carbone. Le bilan carbone, c'est quoi ? C'est l'analyse du cycle de vie du matériau dans sa phase d'extraction, de transformation, de vie et de recyclage. Et ça, c'est un point qui permet de se dire aujourd'hui, je suis en capacité de choisir mes matériaux intellectuellement, celui-ci va peu impacter, celui-ci est plus intéressant. Et de manière générale, ça ne veut pas dire qu'il faut se focaliser sur le matériau le moins polluant, il faut regarder aussi qu'un matériau, il a des capacités pour remplir des tâches finalement, il remplit des fonctions précises. Typiquement, le bois est un très bon matériau pour faire de la structure. La terre crue est un très bon matériau pour faire aussi de la structure, mais par contre de la structure horizontale, verticale, pardon, et pas horizontale.
D'accord.
Et pour ces raisons-là, il faut aller chercher les matériaux pour ce qu'ils sont. Ça veut dire que dans l'approche, il faut être assez pragmatique. On dit souvent le bon matériau à la bonne place.
D'accord. Et ça, pour se renseigner là-dessus, pour essayer de comprendre justement, c'est par le biais... Enfin, comment on peut savoir ça, en fait? Comment on peut apprendre ça?
Eh bien, il y a des ouvrages qui sont assez, finalement... assez pédagogique sur le sur qu'est-ce que c'est que enfin ce qu'est l'éco-construction. Typiquement, j'en ai un derrière moi dans mon bureau qui est assez intéressant, qui est Matériaux et techniques de Jean-Claude Mangoni ou Mangioni. Voilà, moi j'ai appris avec ce type de matériaux, et après sinon il faut aller à la rencontre de, on va dire, d'artisans, d'experts dans le domaine de l'éco-construction. C'est vrai que c'est un parcours qui est un petit peu compliqué. L'éco-construction, c'est quelque chose qui est alternatif, qui sort du parcours classique. Mmh. Et c'est vrai qu'en tant que particulier, c'est aussi, je pense, notre devoir d'aller creuser, de se renseigner. Donc voilà, je trouve que ce podcast est une excellente manière de s'informer aussi, d'aller toucher finalement des praticiens dans des domaines particuliers.
Et donc, en fait, c'est aussi de reprendre le matériau dans sa nature. Quand tu dis, par exemple, la terre, comment elle peut être utile, comme tu dis, par exemple, sur le côté vertical. Hein. Tu disais que c'était plus pour la structure verticale. OK. Pourquoi on va venir un peu sur le matériau de la brique en terre crue, puisque c'est quand même le matériau que tu connais très, très bien. Pourquoi la brique en terre crue, du coup, elle est terre crue, je vais y arriver, est-elle considérée comme un matériau de construction écologique et durable au niveau de son procédé, sa durée, sa stabilité? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu?
Alors, la terre crue, elle a cette faculté finalement d'être à portée de main. On en a sous nos pieds naturellement. Après, je vais juste couper un cliché. On ne prend pas de terre végétale, donc on ne vole pas de la terre agricole. Mm-hmm. On se sert bien sur des terres qui sont dépourvues de végétal. Donc cette terre qu'on a sous les pieds, c'est une terre qu'on va pouvoir transformer. Il y a plusieurs techniques possibles derrière. Ça va de l'enduit, du torchis, du pisé, de la daube, de la brique de terre compressée. Ou de la bauge. Ces techniques de terre crue, en fait, on va transformer en fonction de cette technique, on va plus ou moins travailler jusqu'à l'état plastique du matériau. Cette phase de transformation, ensuite, va nécessiter des fois du matériel, des fois juste, on va dire, le travail des mains pour pouvoir réaliser un matériau. Ce qui est intéressant avec ce matériau, c'est qu'une fois qu'il est en phase de construction, enfin d'utilisation, on va se retrouver qu'un matériau qui est peu énergivore, hein, qui a des changements de phase, donc en gros des transferts d'humidité qui s'opèrent, et ces transferts d'humidité, ils ont la particularité d'amener de la santé à l'occupant, de pouvoir se passer de climatisation, si la maison est bien construite, évidemment, un aquarium en verre avec un mètre cube de terre crue ne sauvera pas, on va dire, l'usage. Donc c'est un petit peu, on va dire, le gros point positif de la terre crue dans sa phase d'usage. Ensuite, c'est un matériau qui est durable. Mais quand on dit durable, c'est vraiment, il est centenaire, il peut être millénaire. Aujourd'hui, la vraie question, c'est de l'entretenir. Une maison en terre crue, elle s'entretient. Alors ce mot fait peur souvent aux gens, les gens n'ont plus envie de s'embêter avec l'entretien. Et pourtant, cet entretien, il est très simple. C'est maintenir une couverture sur la maison et s'assurer que les pieds de mur soient protégés. À partir du moment où on respecte ces conseils-là, les bâtiments, il n'y a pas de raison qu'ils ne durent pas, et on a, on va dire, dans le patrimoine, autour de chez nous, et dans le monde, des constructions, on va dire, assez récentes, qui ont 200-300 ans, et d'autres qui sont beaucoup plus anciennes, comme la muraille de Chine, par exemple, qui a une partie en terre crue. Des immeubles au Yémen, on appelle ça, c'est Ashibam, on appelle ça le Manhattan du désert, il y a des quantités d'immeubles en terre crue qui font jusqu'à 49 mètres de haut, qui sont là, et en fait, la vraie question aujourd'hui, c'est plutôt dans nos modes de construction, ce qu'on appelle durabilité, c'est la durée de vie d'usage du bâtiment, et aujourd'hui, par effet de mode, on a tendance à détruire des bâtiments, alors qu'ils peuvent encore servir. Et aujourd'hui, la terre crue, elle est capable d'aller vraiment, donc très loin en durée d'utilisation, mais si on doit arrêter son usage, on peut aujourd'hui la déconstruire et récupérer le matériau, ou on peut tout simplement la mettre par terre et la laisser, c'est de la terre. Et donc, sur sa phase de vie générale, si je le résume, il y a très peu d'énergie incorporée à la production. Mmh. On a peu d'énergie de consommer, voire même c'est presque, on va dire, l'inverse, ça évite d'en dépenser avec de la climatisation pendant l'usage. Et à la fin de vie, quand on doit le recycler, c'est, je veux dire, c'est quelque chose, c'est de la terre retourne à la terre, finalement. Est-ce que c'est pas l'essence même, on va dire, de toute vie sur terre, c'est de retourner à la terre? Bah, c'est un petit peu ce cycle vertueux.
C'est joliment dit en plus. J'aimerais savoir aussi, parce qu'on parle souvent de briques en terre crue et briques en terre cuite, est-ce que justement là tu as évoqué plusieurs avantages du fait de son procédé de fabrication de la brique en terre crue, du coup, je vais faire attention à mes mots. Est-ce que tu peux nous faire un peu le comparatif, parce que moi j'entends plus facilement parler de la brique en terre cuite dans le traditionnel de la construction classique. Les avantages et un peu les inconvénients, et comment en fait, est-ce que ça peut se combiner? Est-ce que en fait ça s'oppose? Est-ce que il y a des choses à faire là-dedans?
Alors déjà, pourquoi on entend beaucoup plus parler de terre cuite que de terre crue? La réponse, elle est finalement assez simple, c'est que la terre crue, c'est un matériau qui a cessé d'exister dans le système constructif depuis la fin du 19e siècle. La D'accord. raison, elle est assez simple, c'est que le savoir était détenu par des paysans la plupart du temps. C'était eux les bâtisseurs. Et en fait, pendant les deux vagues de guerre mondiale, ces gens-là sont la plupart pas rentrés du combat. Et donc, ce savoir a disparu. Et 1945, c'est le début finalement de la normalisation. Donc, on a commencé à reconstruire en mettant des normes et on a construit beaucoup plus vite. Il fallait reconstruire vite. Et le béton était le matériau du nouveau millénaire. Donc finalement, la terre crue a cessé d'exister dans le paysage constructif. Il n'y a que, on va dire, quand on se balade, on va dire, au sud de en Amérique du Sud, en Afrique, où on trouve quand même encore ces techniques qui n'ont pas cessé d'exister, mais qui restent, on va dire, presque folkloriques. Donc la terre crue, elle était là bien avant, et puis à un moment donné, on s'est dit, tiens... puisqu'on cuit de la poterie, pourquoi pas cuire de la brique? Et finalement, on a commencé à construire un matériau qui est plus résistant mécaniquement, qui tient mieux à l'eau, donc ça répondait aussi à des problématiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des tuiles en terre cuite et qu'on fera jamais des tuiles en terre crue.
Oui, et donc, parce que pour l'eau, c'est un matériau qui supporte mal, mal.
Effectivement, la terre crue est un matériau qui n'aime pas l'eau liquide. Mmh. Donc ça aime pas la pluie, ça supporte très bien les vapeurs d'eau et c'est vraiment fait pour tout ce qui est transfert hydrique, mais par contre ça ne supporte pas l'eau liquide. Donc la terre cuite, la différence entre une terre crue et une terre cuite, c'est la cuisson. Cette cuisson, elle nécessite aujourd'hui de l'énergie. De l'énergie, la plupart du temps, historiquement c'était cuit au charbon. Mmh. Il y a encore aujourd'hui un peu de cuisson au charbon, il y a de la cuisson au gaz et il y a de la cuisson à l'électricité. Et c'est vrai que c'est très énergivore et très impactant. Pour autant, la terre cuite reste un très beau matériau aussi, mais qui, là encore, doit être utilisé à la bonne place. Typiquement, comme je vous l'ai dit, on ne fera pas de tuiles en terre crue. Mmh. Et c'est intéressant sur un sol qui a de l'abrasion aussi, de faire un sol en terre cuite, là où une terre crue ne résistera pas bien. D'accord. Donc c'est vraiment, là encore, chaque matériau à sa place.
Son usage est effectivement travaillé au niveau de l'usage, quoi.
Après, il y a une différence assez fondamentale entre la terre crue et la terre cuite, c'est que la terre cuite, finalement, c'est la cuisson du feuillet d'argile. Au niveau moléculaire, à partir du moment où on a cuit ce feuillet d'argile, on l'a abîmé de manière irrémédiable. Et d'accord. Il faudra probablement plusieurs millions d'années pour que ça se redésagrège et que ça redevienne à nouveau une roche tendre, une argile.
Donc ça, c'est plus au niveau, par exemple, du recyclage, si on voulait le remettre dans la nature, comme tout à l'heure, on se dit, on se pose une brique en terre crue et ça peut largement se remettre dans la terre. Là, ce serait plus compliqué.
Ça reste inerte, donc c'est pas impactant, mais par contre, pour le réutiliser, c'est plus compliqué.
D'accord.
En tout cas, pas sous la même forme, voilà.
Et du coup, comment utiliser la brique en terre crue dans la construction d'une maison ou d'un bâtiment? Comment dans les structures, comment ça peut être utiliser tout simplement.
Alors aujourd'hui, on a fait une petite avancée dans notre structure qui permet d'utiliser la terre crue de manière porteuse. D'accord. Parce que, on va dire, quand on se balade dans le patrimoine, on voit bien que la terre crue, elle est porteuse, sauf que je vous parlais des fameuses normes. Aujourd'hui, c'est compliqué de construire en terre crue parce qu'il faut démontrer tout et presque n'importe quoi, notamment démontrer qu'elle ne brûle pas, la terre crue. alors qu'on vient de dire qu'on pouvait la cuire. Donc d'une certaine manière, il a fallu faire tout ce chemin-là pour redémontrer qu'on peut utiliser le matériau. La terre crue, elle permet de porter les structures. Donc aujourd'hui, vous êtes capable de monter votre mur avec de la brique de terre crue, venir poser un plancher dessus, qui peut être un plancher bois, qui peut être un plancher béton ou un plancher acier, et continuer au-dessus à reconstruire en terre crue pour élever la maison. La terre crue peut aussi être utilisée de manière non structurelle pour faire du cloisonnement. Ça peut être un mur trombe pas loin d'une vitre, ça peut être un mur accumulateur derrière un poêle de masse, ou un poêle, ou un insert.
Accumulateur, qu'est-ce que ça sous-entend pour ceux qui savent?
Alors, accumulateur de calories. Ça permet de récupérer les calories que va libérer le poêle quand il va faire sa combustion, ou derrière une fenêtre qui va libérer avec le soleil.
D'accord, toute la chaleur en fait.
Toute la chaleur effectivement qui va être libérée dans cette pièce, on va pouvoir la stocker. C'est vraiment l'intérêt du matériau, c'est que c'est une grosse pile entre guillemets, elle accumule des calories et donc dès que la maison passe en déficit dans la température ambiante, donc c'est-à-dire qu'on est en pleine nuit où il n'y a pas de soleil, où le chauffage est arrêté, les murs par vase communicant vont restituer ces calories. Et la grande force de la terre crue par rapport à un béton par exemple, c'est que le béton, lui, va relibérer son énergie, mais d'une manière très violente et forte. On est tous passés devant un mur qui a pris le soleil en plein été, la nuit tombe, le mur, on sent que c'est un gros chauffage. Bah, la terre crue fait ça, mais de manière très discrète et calme, ce qui fait qu'elle rayonne, et elle offre finalement un déphasage, donc une durée décalée de distribution de ses calories, qui fait que ça amène du confort. Et ça, plus homogène. Mmh. Et c'est aussi plus en adéquation avec notre corps, hein. Dans le sens, notre corps, on va dire, il attrape tout ce qui est rayonnement, et un mur en terre crue, il rayonne. Et donc, il vient rebalancer ses calories sur la surface de notre corps. Donc, c'est un matériau qui est assez agréable en contact et qui amène vraiment un confort.
D'accord. J'ai peut-être une question idiote pour la structure et monter. Tu disais qu'on pouvait monter des murs porteurs en briques en terre crue. Moi, je viens d'une région du nord de la France, donc du coup, beaucoup de briques dans cette région. Est-ce que c'est possible en structure extérieure, donc de laisser la brique en terre crue, sachant qu'il pleut énormément? Tu disais au niveau, il fallait faire attention au niveau de la toiture et les bas de mur. Est-ce que c'est possible ou est-ce que il faut quand même une protection extérieure différente, quoi?
Alors, on va dire, dans la terre crue, on a un petit jargon, une petite habitude. On dit de bonnes bottes, un bon chapeau.
D'accord.
Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il faut pouvoir enlever l'eau des murs et il faut éviter que l'eau rejaillisse en sol ou alors qu'elle remonte par remontée capillaire dans le mur. Donc, finalement, oui, on peut utiliser la terre crue dehors, mais ça veut dire qu'il va falloir s'assurer que ce système constructif, il fonctionne bien et l'adapter à chaque région. Typiquement, on ne va pas gérer côté Méditerranée de la même manière qu'on va gérer à Lille ou qu'on va gérer en Bretagne. Les protections, l'eau ne vient pas forcément du même secteur. Pour autant, on va dire aujourd'hui, la construction en terre crue, elle est importante à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que l'usager, il est à l'intérieur du bâtiment. Et on parlait de la capacité calorique, de la régulation hygrométrique. Et il y a encore d'autres caractéristiques à la terre crue qui fait que le matériau il est vraiment pertinent à l'intérieur. Et aujourd'hui, on a une réglementation thermique qui nous impose d'isoler les murs jusqu'à un certain niveau de performance. Ce qui est une bonne chose de manière générale, qui n'en est pas forcément une bonne pour la terre crue, parce que la terre crue pourrait se passer de pas mal de choses par rapport à ça, en le regardant de manière un petit peu plus macro que vraiment centrée sur le mur. Pour autant, on est obligé d'isoler aujourd'hui. Donc le fait d'isoler, à ce moment-là, vaut mieux mettre l'isolation par l'extérieur et donc de faire une isolation thermique extérieure, dite ITE, dessus. Ça permet vraiment de garder le confort du matériau à l'intérieur et finalement de le protéger de la pluie, puisque cette isolation thermique extérieure, elle peut être terminée avec un enduit, elle peut être avec un bardage bois. Par contre, la vraie règle de la construction en terre crue, c'est de laisser le mur respirer. Il ne faut pas l'enfermer avec des produits qui bloquent le passage de l'eau.
Oui, comme des laines ou des...
Éviter une laine de roche, éviter d'utiliser un placo-plâtre devant, de mettre une peinture acrylique, voilà, ou un enduit ciment à l'extérieur, c'est ces choses-là qu'il faut proscrire. Mais si on reste dans une logique éco-responsable de construction, la quasi-totalité des matériaux naturels, ou on va dire peu transformés, aujourd'hui sont compatibles avec la terre crue, étonnamment.
Étonnamment. Effectivement. Et du coup, ça m'en vient à me poser cette question-là. Est-ce que Monsieur Tout-le-Monde peut poser des briques en terre crue, ou est-ce qu'il faut faire appel à un maçon spécialisé là-dedans, ou est-ce qu'un maçon classique, entre guillemets, peut aussi poser ce genre de briques
Alors,
une formation.
Bien évidemment, un maçon spécialisé qui connaît le matériau ira plus vite. Et on est garanti du résultat. Pour autant, un particulier motivé, moi j'ai l'exemple aujourd'hui, nous les matériaux on les vend, on va dire, à la fois des particuliers, à la fois des professionnels. Les particuliers se renseignent en amont, lisent les préconisations de pose, posent les quelques questions qui les chagrinent. Mmh. Et quand ils attaquent la maçonnerie, ils sont très méticuleux finalement, parce que c'est pour eux, on va dire, c'est la partie qui se sont gardées. Finalement, j'ai souvent des particuliers qui maçonnent mieux que des professionnels à la fin, parce qu'ils vont plus soigner le rendu. Pour autant, aujourd'hui, un maçon classique, s'il est maçon au sens noble du terme, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu la problématique qu'on a dans le milieu, c'est que les maçons sont très spécialisés. Ceux qui font du béton, il y a le coffreur, il y a le ferrailleur, il y a celui qui coule, celui qui nettoie la banche. Il y a presque une ségrégation des savoirs. Et finalement, un maçon de métier, lui, il sait ce que c'est qu'une truelle, un mortier, un fil à plomb. Et quand il va maçonner, qu'il maçonne de la terre cuite, du parpaing ou de la terre crue, ça va globalement être les mêmes règles de maçonnerie. La seule différence qui est à souligner, c'est que la terre crue, la plupart du temps, reste apparente. Et donc là, il faut apporter un soin à la maçonnerie, notamment sur la finition du joint. Et c'est là où aujourd'hui, il y a peut-être la plus grosse lacune dans le métier. Et c'est là où nous, on a un point de vigilance, où on fait des ateliers pour former ces maçons professionnels, ou un atelier pour former des particuliers, justement pour s'assurer que le résultat soit au rendez-vous. Mais il n'y a rien de sorcier, c'est de la maçonnerie.
C'est plus, oui, sur le côté esthétique, où là, on doit faire un point de vigilance
tout
particulier.
À fait.
Okay. Est-ce que, pareil, question peut-être idiote, mais la brique en terre crue, il y a plus d'intérêt à la... Enfin, après, c'est peut-être une question esthétique, mais si on la cache, est-ce que c'est grave? Est-ce si on la garde en visibilité, est-ce qu'il faut faire un soin particulier, même en intérieur? Est-ce que ça peut se tacher? Est-ce qu'il y a des produits à mettre, des mousses qui pourraient arriver dessus? Enfin, plus dans ce sens-là.
Alors, de manière générale, nous, ça fait 11 ans, moi, que j'exerce ce métier. Ça fait 11 ans que j'ai des gens qui viennent me voir. La plupart, à 90%, ils veulent garder la brique apparente. 10% veut la cacher avec un enduit. Et dans ces 10%, souvent la moitié renonce à faire l'enduit. Parce qu'une fois qu'ils ont maçonné, ils trouvent ça beau et ils le gardent tel quel. Après, il n'y a pas de problème à la cacher. Ça peut être un badigeon, ça peut être une peinture à l'argile, ça peut être un enduit terre, ça peut être un enduit sable, un enduit à la chaux, ça peut être un plâtre. C'est à peu près, on va dire, le panel de ce qu'on peut utiliser. À partir du moment où ça respecte les transferts d'humidité, comme je le disais, ça fonctionne. Oui. Donc il n'y a pas de souci à la cacher, elle reste pertinente, elle continue à œuvrer pour le confort et on va dire, et la santé de l'occupant.
Sur toutes ces technicités qu'on a évoquées.
Exactement. Après, le produit que moi je conseille systématiquement, ça s'appelle le Tirafix. C'est un produit qu'on vient mettre sur le mur qui bloque les pulvérulences. Donc en gros, tout ce qui peut être poussière, ou typiquement quand on s'appuie sur un mur avec de la terre, on peut partir avec une trace sur les vêtements. Mmh. Et ça, le Tirafix, il le bloque sans bloquer les propriétés. Et ce produit, il est un petit peu miraculeux aussi, parce qu'il peut être pigmenté avec des pigments naturels.
D'accord.
Dedans, donc ça permet aussi de se dire, tiens, je vais changer la couleur de mon mur, parce que pour X raison, tiens, c'est la couleur, c'est pas tout à fait la couleur que je souhaite. Et à ce moment-là, c'est très facile à faire, ça nécessite pas une grande compétence, et ça offre un champ de possibilités assez sympathique. En gros, le Tirafix à pigmenter, ça reviendra à une lasure qu'on peut appliquer dessus.
Donc effectivement, c'est vrai que sur l'aspect esthétique, on n'a pas qu'une seule couleur de brique en terre crue. On peut aussi se dire, si on a envie d'avoir, je sais qu'à un moment donné, c'était la tendance d'avoir des briques plutôt grises ou noires, c'est possible de l'avoir aussi en terre crue.
Tout à fait. Après, c'est vrai que notre métier n'est pas de soigner l'esthétique de nos matériaux. Nous, on est vraiment là pour faire un matériau de construction accessible à tous en termes de prix. Et donc, la couleur est la couleur du filon de terre qu'on a au moment où les gens viennent passer commande. Et c'est en ça où on va dire, cette possibilité-là de changer la teinte est intéressante aussi, parce qu'il y a toujours des demandes un peu plus particulières, comme tu le disais, avec potentiellement voilà, un effet de mode gris, noir. Voilà. Sachant que sur la terre crue, une petite expérience nous a montré, on a dû faire des briques avec une terre de site, qui était une terre grise.
D'accord.
Et c'est vrai que le retour aujourd'hui, c'est que ça ne plaît pas. Là, peut-être une cinquantaine de logements, 86 logements, pardon, qui ont été faits avec des briques de terre grise. 90% des gens qui vivent dans ces bâtiments demandent un enduit terre dessus pour les cacher.
Oui, donc comme quoi, c'est vraiment des effets de mode aussi après.
Tout à fait. En tout cas, quand on veut prendre de la terre crue, les gens s'attendent à des couleurs plus chaleureuses.
Oui. Oui, c'est vrai, on s'attend plus au rouge,
du jaune, de l'orange, voilà.
D'accord, ok. Mais bon, c'est possible d'avoir ce choix-là, en tout cas, c'est pas
tout à fait
fermé. Non, mais c'est important aussi, parce que l'esthétique, ça compte aussi dans une maison, donc du coup, voilà. Est-ce que justement, donc on va rester sur le mot tendance, j'avais cette question pour toi, est-ce qu'il y a des tendances en matière de construction écologique et durable pour les prochaines années ? Que ce soit avec la brique en terre crue ou autre, est-ce que tu as remarqué, toi, avec ta vision, des tendances là-dessus ?
Alors, déjà, la grosse tendance, on va dire, en pas loin de 10 ans, c'est finalement l'augmentation de la demande.
D'accord.
On a un éveil, on va dire, dans la construction qui est très fort, qui s'est accéléré avec les années Covid. C'est la première fois de l'histoire où l'être humain est coincé chez lui et découvre son logement. Avec un œil, on va dire, plus avisé. Tiens, je me sens bien, je suis pas bien. Tiens, il fait chaud. Tiens, c'est bruyant. Et donc, pour toutes ces raisons-là, les gens, aujourd'hui, construisent de plus en plus de manière durable. Il y a un effet de mode, probablement un petit peu, mais il y a quand même un gros éveil avec les rapports du GIEC qui arrivent, etc. Donc, une tendance à la hausse, c'est une certitude. Une tendance aussi à être un petit peu plus innovant. On va dire dans la manière d'utiliser le matériau, dans le sens, avant les gens faisaient le gros de mes demandes, c'était une petite cloison derrière le poêle. Là, de plus en plus, on a affaire à plusieurs cloisons, voire carrément des maisons complètes qui sont faites avec ce matériau. Et c'est vrai que on va dire de plus en plus aussi une approche bioclimatique de l'usage du matériau, c'est-à-dire on le met vraiment à la bonne place pour qu'il récupère l'apport solaire, qu'il puisse éventuellement derrière une véranda un petit peu sans isolation faire une pile qui se charge en calories, et après une fois qu'on ferme la véranda la nuit, le mur il restitue à l'intérieur pour chauffer la pièce. Donc la tendance elle est vraiment à cette hausse-là, là, ça veut dire pour tout ce qui touche les particuliers et pour les professionnels, on voit un virage qui commence à être pris, on va dire, par les promoteurs, la commande publique également, et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, je vais vraiment insister là-dessus, il y a de plus en plus d'établissements scolaires qui sont faits avec de la terre crue, et moi, je vois ça d'un très bon œil, parce que souvent, on parle, des personnes sensibles. Les personnes sensibles, aujourd'hui, sont les personnes âgées, et les enfants,
sont donc plus fragiles. Ouais.
Tout à fait. Et c'est vrai que la qualité de l'air que le matériau offre aujourd'hui, on a beaucoup de groupes scolaires qui sont des écoles primaires, élémentaires, des collèges, des lycées, sur lesquels la terre crue est plébiscitée pour ses qualités esthétiques, acoustiques, régulation hygrométrique et tout ce qu'on a décrit jusque là.
En fait, on peut considérer que la brique en terre crue est une sorte de filtre aussi, et peut-être à la pollution, ou pas, enfin, pollution en termes général ou pas.
Alors, c'est déjà, on va dire, un matériau qui est composé d'argile. À partir du moment où on est composé d'argile, l'argile, elle est bactéricide. Donc finalement, ça permet de faire baisser la charge virale dans l'environnement proche de la terre crue, dans une pièce.
D'accord.
Donc ça, c'est intéressant à l'heure des pandémies. Oui. De l'autre côté, c'est un matériau aussi qui nettoie l'air ambiant aussi sur la qualité au niveau de l'odeur. Donc c'est D'accord. quelque chose qui est beaucoup plus neutre. Et à côté de ça, c'est un matériau qui est sans perturbateur endocrinien. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus des maladies dites du bâtiment qui commencent à être connues, notamment l'asthme, même les sécheresses de la peau, des muqueuses. Et c'est vrai que ça, la terre crue, de par le niveau d'humidité qu'elle tient, on a un meilleur confort. Et ça, c'est peut-être aussi à noter, c'est que globalement, le matériau terre crue aujourd'hui est le seul matériau qui est capable de stocker autant d'eau qui soient donc finalement compatibles au niveau d'eau qu'on a dans le corps humain sans générer de pathologies. Typiquement, le bois, à humidité équivalente, il développe des champignons qu'on sait pas bon pour nos voies respiratoires. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de, on va dire, de voir que le matériau, il a cette capacité-là d'être sain. Et quand je parle aujourd'hui de 100 perturbateurs endocriniens, on sait pertinemment aujourd'hui ce que font les perturbateurs endocriniens sur la santé de l'être humain.
Oui, oui, sur plein d'aspects. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce genre de matériau. Impossible d'avoir sur ce type de matériau, comme tu disais, ça capte un peu l'humidité. Le bois, justement, à juste titre, tu disais, ça pouvait à force générer des champignons. Là, impossible de commencer à avoir des mousses ou des choses qui se développent via la brique.
La terre crue, effectivement, n'a pas de développement de mousse, de champignons dessus. C'est vraiment un matériau qui est très sain, même avec un niveau d'humidité important. Ça se comporte vraiment très bien. Et c'est vrai que une des autres caractéristiques qui est très intéressante de ce matériau, c'est que justement le fait qu'elle stocke de l'humidité, qu'elle en restitue, en fait, elle permet d'abaisser le besoin énergétique du bâtiment et d'augmenter aussi, comme il y a, là je parle encore du niveau d'eau du corps humain et de la terre crue, finalement d'augmenter la plage de confort. Typiquement, on supporte facilement 2 degrés de plus en surchauffe et 2 degrés de moins l'hiver dans un bâtiment, ce qui fait que finalement, on chauffe moins et on n'a pas besoin de climatiser ces bâtiments-là. Donc c'est très intéressant parce qu'on finalement, la terre crue, si je devais le résumer, ça fait finalement office d'un cocon protecteur. Quand on rentre dans un bâtiment en terre crue, on se sent bien dedans directement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plus grosse difficulté, on va dire commerciale ou même on va dire intellectuellement, expliquer aux gens les bienfaits de ces matériaux, tant qu'ils ne l'ont pas vécu, c'est compliqué de leur faire appréhender ce que ça fait. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de personnes qui passent et quand il fait très chaud dans le bâtiment dans lequel on est, l'été, il fait très très chaud. Et quand on rentre dans mon bureau où il y a de la terre crue, là derrière moi, il y a des enduits, instantanément, on sent une différence de température, on y est très bien.
Ça permet de temporiser un petit peu, comme tu dis, la température et de garder un climat qui reste acceptable en fonction de l'extérieur, quoi.
Souvent, je fais un comparatif très industriel. Je viens de l'industrie, c'est mon parcours de départ. Vous prenez une locomotive, une fois qu'elle est lancée avec la charge, qu'elle est lancée sur la voie, qu'il y ait une petite montée ou une petite descente, elle va l'absorber sans énergie parce qu'elle a de l'inertie. La maison, elle fonctionne exactement de la même manière. Il faut l'imaginer, c'est une grosse locomotive. La terre crue, c'est lourd. Donc en fait, on a fait une maison qui a beaucoup de poids. Et ce poids va permettre finalement de couper le chauffage plus tôt dans la saison parce que les calories stockées dans les murs permettent de terminer la saison sans chauffage. Et quand l'été, ça va se charger un petit peu en température, finalement, on va avoir des murs qui vont remonter une température de 22-23 degrés en fin de saison. Et ces 22-23 degrés, ils rentrent dans le hors-saison. C'est de l'énergie gratuite qui est là, qui est disponible. Et donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, ça permet aussi d'ouvrir une fenêtre 5 minutes et de refermer sans avoir on a perdu les calories de l'air ambiant, mais on n'a pas perdu les calories de mur, et donc le mur relibère ses calories dans l'air ambiant.
Ouais, il y a vraiment un effet d'équilibre en fait.
Tout à fait.
C'est assez chouette. Je voudrais savoir aussi sur un plan économique, c'est quoi la grande différence? Est-ce que, pareil, monsieur et madame tout le monde peuvent s'offrir facilement un mur en terre crue ou une structure en terre crue? Ou est-ce qu'il faut se dire, bon, c'est un effort un peu plus financier à poser?
La réponse, c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que c'est pas inaccessible, mais ça nécessite un petit effort financier supplémentaire. Aujourd'hui, si je devais l'intellectualiser sur une maison complète, vous faites une maison en terre crue à la place d'une maison conventionnelle, ça va vous coûter 10 à 15% plus cher sur le global. Donc c'est pas négligeable en termes de coût. Sur une maison de 200 000 euros, ça ferait 30 000 euros de plus dans le coût de construction. C'est pas la terre crue qui est la seule responsable de ce coût-là, mais quand on met de la terre crue, comme je disais, on met plus de placoplâtre. On met plus de laine de verre. Donc finalement, on va remplacer ces matériaux-là par des alternatives et on va changer un peu le système constructif. Donc ça augmente le coût de la maison. Il y a deux manières de voir ce coût-là. La première, c'est le coût de la santé. Aujourd'hui, quand on est malade, on sait pas mettre, enfin je veux dire, souvent je prends cet exemple qui est un petit peu qui est un peu extrême, j'ai toujours eu tendance à fonctionner un peu comme ça. Si du jour au lendemain on vous annonce un cancer, on vous dit qu'il est lié à la maison, ce jour-là, est-ce que vous seriez pas capable de mettre 15 ou 20 ou 30 000 euros de plus pour pas l'avoir? Très certainement, ça devient une priorité du moment. Et en fait, dans l'acte de construire, il faut savoir qu'il y a une part, une grosse part de santé dans un bâtiment. Et si vous ne prenez pas des bons matériaux, finalement, vous agressez votre corps. Et donc, potentiellement, vous générez des pathologies sur votre santé. Le coût immédiat, par contre, ce qui est beaucoup plus tangible, c'est la partie énergétique. Ce que je vous disais, vous chauffez moins, vous n'avez pas du tout de dépenses énergétiques l'été puisque vous n'avez pas besoin de clim. Donc, pour toutes ces raisons-là, vous faites des... un confort de vie, mais donc vous faites un gain économique tous les ans. Donc finalement, c'est la vraie question, c'est de se dire, est-ce que je ne mets pas plus au départ pour gagner sur la durée en termes d'énergie, donc vraiment de l'argent que je ne dépense pas. Et en fait, c'est vraiment là aujourd'hui, il y a une approche importante à avoir dans l'acte de construire, c'est de se poser les bonnes questions. On est tous sachants dans un domaine précis. On a tous une expertise, et c'est vrai que le bâtiment, aujourd'hui, les gens ont tendance à regarder majoritairement le bâtiment comme étant un coup de cœur. La maison me plaît. Ah, c'est super, t'as vu, elle est à côté de l'arrêt de bus pour les enfants, pour aller à l'école, il y a le collège qui est au bout de la rue. Ah, je suis pas loin du centre-ville à pied. Mais finalement, peu de gens se posent la question, tiens, qu'est-ce que j'achète? De quoi sont faits les murs? Et c'est vrai que, d'une certaine manière, moi, j'ai tendance à voir comme les autres, hein. La maison, faut qu'elle me fasse, qu'il y ait un coup de cœur, je vais regarder, je vais intellectualiser, mais par contre, ma grille de sélection est beaucoup plus draconienne, parce que, ok, j'ai peut-être trouvé la maison de rêve à l'endroit où je voulais, mais elle est peut-être pas faite avec les matériaux que je veux, et à ce moment-là, bah, c'est peut-être un critère sur lequel je vais pas transiger, je passerai à autre chose.
Tout à fait. Je pense que c'est vrai qu'on a plus... et c'est un bon point que tu as soulevé, parce que c'est vrai qu'on a facilement l'idée de se dire on le fait à la praticité de vie, par rapport au travail, les enfants, peu importe. Mais c'est vrai qu'on se... Parfois, on fait le sacrifice, effectivement, sur l'habitat en se disant, bon, c'est pas très loin de l'école, donc c'est facile, mais clairement, bah, comme tu dis, ça va peut-être être construit d'une manière un peu moins saine pour son corps ou pour autre, hein, pour l'énergie, etc. Et on fait ce sacrifice-là plus facilement, entre guillemets.
Tout à fait.
C'est une bonne réflexion. J'invite en tout cas les auditeurs à faire cette réflexion aussi. Pourquoi ils ont choisi ou rénové ou construit cette maison à cet endroit, ou s'ils ont un projet de faire cette réflexion en amont, parce que c'est chouette d'avoir cette approche, en fait. C'est un petit peu novateur aussi dans l'idée. On entend très peu parler de ça, en tout cas. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter, Étienne, par rapport à ce sujet, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, que tu sembles important de transmettre par rapport au sujet?
Bah je pense qu'effectivement, il y a un point qui est important, qui est vraiment la manière de construire aujourd'hui, il faut la repenser totalement. Et il faut la penser durable. Et quand je dis durable, il faut la penser sur l'usage des matériaux. Je parlais de durabilité de construction. Mais il faut aussi et surtout l'imaginer comme finalement un leg aux générations futures. Et ce leg aux générations futures, il doit être durable, il doit être vertueux. Et donc, il faut arriver. Et c'est là où moi, j'ai aujourd'hui le plus de difficultés à le faire comprendre et à le voir se manifester, d'arrêter de travailler le bâtiment par effet de mode. On a eu les constructions des années 20, on a eu les constructions des années 40, des années 60, des années 80. Aujourd'hui, on est dans les constructions des années 2000, finalement. Et vraisemblablement, toutes ces maisons-là, elles connaissent quasiment tous le même sort. À un moment donné, elles sont délaissées par effet de mode et on passe à autre chose. Et aujourd'hui, on veut tous une grande baie vitrée qui fait 4 mètres de long. Alors que la maison de 1920, bah, elle avait deux portes battantes. Et c'est vrai que c'est là où aujourd'hui, il y a un vrai besoin, c'est de se dire, peut-être qu'il faut qu'on arrive à faire quelque chose qui soit moins empreint d'effet de mode, quelque chose qui soit transformable de destination, typiquement qu'une maison puisse devenir des bureaux, que des bureaux puissent devenir une maison, mais de se dire que tout ce qui est construit doit absolument être préservé, être entretenu, parce que, on va dire, je prends un exemple malheureux toujours, mais vous prenez un automobile, vous prenez un 4x4, le 4x4 de l'armée américaine, le Hummer, il fait 1 million de kilomètres. Alors oui, il consomme 30 litres au 100, mais il fait 1 million de kilomètres. Et il est fait que d'acier, il y a des pneus, et il y a quelques câbles électriques. Ça, somme toute, c'est assez ça. Et de l'autre côté, vous avez la Toyota Prius qui est à la mode, qui est électrique. Finalement, il en faut 5 pour faire la durée de vie du Hummer. Le bilan, c'est qu'écologiquement, le Hummer est plus propre que la Prius. Ça semble contre-intuitif. Et en fait, alors ça ne veut pas dire qu'il faut tous rouler en Hummer, ça veut dire qu'il faut être pragmatique dans l'usage des matériaux, sur l'entretien et sur la durée de vie. Et finalement, si on prend ces trois composantes-là, on aura la construction de demain et ce fameux leg aux générations futures.
Oui, de garder un peu effectivement ce côté durable et transmissible aussi, qui est plus compliqué aujourd'hui en tout cas.
Tout à fait.
Ok, et eh ben c'était un bon mot de la fin. Est-ce que on peut passer pour toi à la phase action? Est-ce que ou tu veux rajouter un dernier truc?
Non, je pense avoir fait le tour. On peut passer à la phase action.
C'est parti alors. Et concrètement, comment ça se passe pour son bercail? Nos éditeurs, ils ont un projet du coup d'éco-construction avec de la brique en terre crue, tu l'auras deviné. Qu'est-ce que tu leur conseilles? La première question à se poser, un acteur à conseiller, un conseil hyper concret là tout de suite par rapport à ce projet.
Alors la première base, c'est que si vous devez construire en terre crue, concevez en terre crue, réfléchissez avec de la terre crue. Et ne faites pas un projet en se disant « Tiens, là, je pourrais peut-être mettre de la terre crue, là, je remplacerai ce matériau par de la terre crue. » Ça vous coûtera plus cher et ça sera plus de problématiques que si vous l'avez pensé terre crue dès le début. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut soit se documenter, soit aller vers des professionnels qui, on va dire, qui travaillent la terre crue, des architectes, ou tout simplement venir nous demander conseil. On va dire régulièrement, on se retrouve à regarder les plans d'un client et de lui dire non, là attention, ça risque de vous coûter plus cher, ça c'est pas très pertinent, attention, là vous mettez la terre crue dans un fonctionnement où elle est pas faite pour. Donc finalement, c'est vraiment de penser le projet, de bien le concevoir. Je suis moi-même en train de faire ma propre maison avec mon épouse. Voilà, j'ai conçu la maison avec la terre crue autour de la terre crue.
C'était vraiment l'idée première avant de te dire, bon, peut-être que je ferai un mur comme ça, mais on verra plus tard, quoi.
Exactement.
Ok. Bah justement, deuxième question un peu. Du coup, dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi pour toi ton bercail idéal? Peut-être que tu es en train de le construire, du coup.
Effectivement. Bah mon bercail idéal, c'est de la terre crue. C'est de la terre crue pour les murs porteurs. Le cloisonnement, on va dire, de tout ce qui est cloisonnement du rez-de-chaussée, pareil, en porteur. Enfin, pas en porteur, mais je veux dire en cloison terre crue. Avec une isolation de chanvre projetée à l'extérieur sur le mur et un enduit sable chaud pour la finition et la protection, une toiture en tuile sur une charpente bois massive. Voilà un petit peu la construction pour moi idéale. Et mon coup de cœur à moi, ça serait de pouvoir avoir une chambre faite en terre crue avec une voûte ou une arche au-dessus de la chambre qui est très propice au repos. Voilà.
D'accord, et ben c'est joli aussi, moi j'aime bien, je m'inspire beaucoup de ces visions, je trouve ça chouette. Est-ce que tu as des sources pour t'informer? Du coup, tu nous as parlé d'un livre tout à l'heure, est-ce que tu as d'autres livres, d'autres ouvrages, d'autres personnes à suivre, podcasts, peu importe?
En fait, il y a un livre que moi je conseille aujourd'hui qui est Architecture en terre crue d'aujourd'hui, qui a été fait par Dominique Gauzin-Muller, qui fait partie des trois noms, on va dire, de co-rédactrice du Manifeste de la frugalité. Heureuse, je vais y arriver. Ce bouquin, je vous le conseille, parce que souvent, les gens ont une vision, quand on parle de terre crue, ils ont une vision très vernaculaire du matériau. Et donc, voilà, souvent, ils imaginent la maison des trois petits cochons. Ça, c'est la première vision qui passe devant les yeux. La seconde, c'est de se dire, tiens, on a bien vu des cases en Afrique dans un reportage. Ça n'a pas l'air très confortable. Et surtout, c'est pas moderne. Et en fait, ce bouquin, lui, vraiment casse tout ça, puisque c'est, on va dire, c'est des photos de construction dans le monde entier, d'architectes qui ont travaillé avec la terre crue, et il y a des constructions qui sont tout à fait contemporaines, très intégrées, très finalement conception du prochain millénaire. Et donc, ce bouquin, je vous le conseille fortement. Et après, j'allais dire, il y a ce fameux mouvement donc, du Manifeste de la frugalité heureuse que je vous conseille fortement de suivre. Ce sont, on va dire, des concepteurs ou des donneurs d'ordre qui peuvent être voilà, des aménageurs, des promoteurs, des élus qui suivent ce mouvement. Et ce mouvement, c'est vraiment la frugalité heureuse. Donc, c'est concevoir de manière frugale, de concevoir de manière durable. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de, on va dire peut-être de faire un podcast avec Philippe Madec, qui est un des trois rédacteurs de ce manifeste, de ce mouvement, c'est vraiment une personne qui a une vision justement très éclairée de ce que peut être la construction de demain.
Ok, eh ben c'est noté en tout cas. Et puis, de toute façon, tous les noms seront remis dans les descriptifs du podcast, mais je prends note en tout cas pour l'interlocuteur, je suis toujours à l'écoute de ça. Eh ben écoute, Étienne, je te remercie. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de suivre, de te retrouver ton entreprise, de voir si tu as du contenu aussi?
Eh bien, on peut nous retrouver sur Internet sur briquestechnique.fr. On peut aussi nous suivre sur les réseaux Facebook, LinkedIn. Et puis après, on est dans le Tarn et on peut également organiser des visites du site.
Ok, le message est passé. Merci beaucoup pour ce moment. C'était super intéressant, comme toujours, j'adore.
Merci à toi, Caroline.
Ça permet d'ouvrir un peu les yeux sur autre chose, donc encore merci.
Merci vraiment pour cette opportunité de partager ce métier, mais qui est une passion avant tout.
C'est le principal et c'est ce qu'il faut aussi. Je vous souhaite à tous bonne écoute, en tout cas, et à très vite dans vos barcailles. Si je devais retenir trois choses de cet épisode, ce serait que la terre crue est un matériau multimillénaire et durable, utilisé dans la construction écologique pour ses faibles émissions de carbone et ses avantages pour la santé des occupants. Ensuite, le choix des matériaux sains pour l'éco-construction peut être fait de manière intuitive, en privilégiant ceux disponibles dans la nature, comme le bois, la pierre, la terre crue, ou de manière plus intellectuelle, en examinant leur bilan carbone et leur cycle de vie. Et enfin, la brique en terre crue est considérée comme un matériau écologique et durable en raison de sa disponibilité, de sa faible consommation d'énergie, de ses propriétés de régulation de l'humidité et de son potentiel de recyclage. Elle offre également des avantages esthétiques et peut être utilisée tant pour les structures que pour les finitions. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir notre travail en nous laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux faire partie de la belle communauté d'Aubercaille, je t'invite directement à t'inscrire sur notre site www.aubercaille.co pour avoir toutes les dernières informations sur l'habitat éthique. À très vite dans Aubercaille.